Un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. 100 milliards d'euros pour retrouver notre niveau de richesse d'avant la crise dès 2022. Jean Castex qualifie son plan de relance d'historique. Antoine Maret analysera la méthode définie par le Premier ministre pour s'assurer de la bonne exécution de ce plan. Dans quelle mesure ce plan peut-il effectivement redonner confiance et créer de l'emploi? Nous le verrons avec Anne-Laure Jumet. Au procès des attentats de janvier 2015, la Cour d'assises spéciale de Paris a commencé à se pencher sur la personnalité des accusés. Florence Turm nous fera le compte-rendu de cette deuxième journée d'audience. 2 ans et demi après l'assassinat de Jan Kuciak, qui avait bouleversé la Slovaquie, l'homme d'affaires accusé d'avoir commandité le meurtre du journaliste d'investigation est acquitté. Le parquet fait appel. Correspondance d'Alexis Rosenzweig. Et puis en Afghanistan, gouvernement et talibans ont presque achevé l'échange de prisonniers sur lequel ils s'opposaient depuis 6 mois. Une étape importante avant l'ouverture des négociations de paix. Nous irons à Kaboul. Objectif, relancer l'économie affectée par les conséquences de la crise sanitaire. En Conseil des ministres ce matin, le gouvernement a détaillé son plan intitulé France Relance. Il vise à faire repartir l'activité, à favoriser la compétitivité de la France, à donner une nouvelle dynamique à la transition écologique tout en renforçant la cohésion sociale et territoriale. 100 milliards d'euros donc sont consacrés à ce plan de relance. Jean Castex souligne l'ampleur de l'effort engagé.
Après l'indispensable sauvegarde, la consolidation et l'offensive, c'est le plan de relance. Une ambition et une ampleur historiques. 100 milliards, c'est près de 4 fois plus que le plan de relance qui avait été mis en œuvre pour faire face à la crise de 2008. C'est, en proportion de la richesse nationale, le plan de relance le plus massif annoncé à ce jour parmi les grands pays européens. 100 milliards, c'est le montant nécessaire pour retrouver dès 2022 notre niveau de richesse d'avant la crise. C'est un objectif ambitieux, mais parfaitement à notre portée.
Le Premier ministre Jean Castex. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir.
Depuis le discours de politique générale, on connaît le style Castex, direct et concret. Cet après-midi, Antoine, le Premier ministre s'est livré à un oral très technique.
À l'opposé d'un Emmanuel Macron souvent très lyrique sur la forme, on a assisté cet après-midi à un long exposé de macroéconomie. Long de plus d'1h30 avec en maître de cérémonie le chef du gouvernement et quelques interventions de ministres triés sur le volet. Bruno Le Maire pour l'économie, Barbara à Pompili pour l'écologie, Elisabeth Borne pour le travail, à l'image des 3 parties de ce plan. 35 milliards pour l'amélioration de la compétitivité économique, 30 milliards pour le verdissement et 35 milliards pour le soutien à l'emploi, à la cohésion sociale. Jean Castex promet qu'il n'y aura aucune hausse d'impôts. Il laisse donc filer le déficit. Il l'assume, expliquant même, on vient de l'entendre, qu'il s'agit du plan le plus massif annoncé à ce jour par les grands pays européens. Mais Jean Castex fait un choix dans ce choix. Il choisit une politique de l'offre plutôt qu'une politique de la demande. Son but, c'est de créer un choc de confiance chez les Français et transformer leur actuelle épargne de précaution en consommation. C'est un pari audacieux, tout comme celui de la rapidité dans l'exécution de ce plan de relance. La machine économique pourra-t-elle s'adapter facilement à cette nouvelle donne? Les réponses à ces questions conditionneront en grande partie la réussite ou l'échec de ce plan de relance. Défi colossal de cette fin de quinquennat.
Antoine Maret, la vocation première de ce plan en redonnant confiance aux entreprises, c'est donc de créer de l'emploi avec l'objectif pour 2021 de 160 000 créations de postes. Anne-Laure Jumet, sur quoi s'appuie la dynamique pour créer des emplois?
Alors l'idée, c'est de remplir les carnets de commandes des entreprises via les aides directes à l'investissement, à la relocalisation, à la rénovation énergétique, une machine économique qui repart et donc qui crée de l'emploi. Alors ça n'empêche pas de donner un coup de pouce aux entreprises pour les aider à franchir le cap. Et là, le gouvernement sort l'arsenal classique des primes. 4 000 euros pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans. Dans le détail, 1 000 euros sont versés tous les trimestres, ce qui a pour objectif d'inciter les entreprises à signer des contrats de longue durée. Dans le panel de mesures pour l'emploi, il y a également une part de contrats aidés, 120 000 au total, répartis équitablement entre secteurs marchands et non marchands. Voilà pour les mesures incitatives. Mais il y a aussi et toujours dans ce plan de relance des milliards pour le chômage partiel, afin de soutenir les entreprises qui font face à un ralentissement durable de l'activité. 6,6 milliards d'euros au total, en particulier pour le nouveau dispositif d'activité partielle de longue durée. Une stratégie qui n'évitera malheureusement pas les plans sociaux, une vague qui a déjà commencé et qui devrait s'amplifier en cette rentrée. Selon les prévisions de l'UNEDIC, ce sont environ 900 000 postes qui devraient être détruits à la fin de l'année. D'ailleurs, dans le plan de relance, des crédits sont aussi débloqués pour accroître les effectifs de Pôle emploi. 1 500 conseillers seront recrutés en septembre et octobre pour faire face à cette augmentation attendue du nombre de chômeurs.
Et Emmanuel Laurentin interrogera ses invités sur les relocalisations. Qui va revenir ? Question posée dans le temps du débat à 18h20. Dans l'immédiat, c'est Amazon qui embauche. Le géant de la distribution en ligne prévoit de recruter 7000 personnes supplémentaires au Royaume-Uni d'ici la fin de l'année pour un total de 10 000 embauches sur l'ensemble de 2020. Ça n'est pas une grosse surprise, hein, alors que les commerces traditionnels ont vu leurs pertes s'accélérer à cause de la pandémie de Covid-19. Les mesures de confinement ont bénéficié à la distribution en ligne. Le vaccin contre le Covid-19 de Sanofi et GSK va être testé sur l'homme. Les essais précliniques se sont avérés prometteurs selon les deux laboratoires qui espèrent pouvoir présenter une demande d'homologation au premier semestre 2021. Et ils annoncent déjà 1 milliard de doses en 2021. Les deux entreprises envoient ainsi un message aux États, leurs clients, à leurs actionnaires et elles se positionnent bien sûr dans la course au vaccin à laquelle participent les géants pharmaceutiques dont l'américain Pfizer qui prétend être déjà un stade plus avancé. Il y a là, aux yeux de Olivier Maguet, une dangereuse précipitation. Olivier Maguet, responsable de la mission de Médecins du Monde sur le prix du médicament et des systèmes de santé.
Une course à la vitesse. Une course à la vitesse qui me fait penser finalement à la devise des Jeux Olympiques, plus vite, plus haut, plus fort. Sauf que cette devise, elle est sans l'esprit des Jeux Olympiques, celle de Pierre de Coubertin, qui était l'important, c'est de participer. Là, c'est l'important, c'est de gagner. C'est de gagner le jackpot. En fait, on est dans une course au profit effréné. Et comme plus rien ne justifie les prix indécents qui sont demandés aux États payeurs, car je rappelle que dans cette histoire, les milliards de doses dont on parle seront payés par la cotisation sociale et par l'impôt, c'est-à-dire par vous et moi, eh bien, on cache ça sous l'angle de la vitesse, de la nouveauté thérapeutique, pour annihiler tout débat public sur le prix du médicament et justifier toutes leurs exigences. Donc cette course à la vitesse, elle est dangereuse pour les finances publiques, mais surtout et avant tout, elle est dangereuse pour la sécurité sanitaire, car il vaut mieux attendre un petit peu plutôt que de se retrouver avec un médicament. Et le vaccin est un médicament dont nous n'avons pas finalisé l'ensemble des essais, parce que derrière, c'est la sécurité de l'homme qui est en jeu. Depuis le scandale de la thalidomide dans les années 60 aux États-Unis, donc c'est pas nouveau, nous savons que lorsqu'on met trop vite un médicament sur le marché, nous faisons courir des risques à la santé publique. Conclusion, mettre trop vite un médicament ou un vaccin sur le marché, c'est faire courir un risque à la santé et c'est faire courir un risque à la solvabilité du marché du médicament, aux sécurités sociales dans nos pays d'Europe qui financent ces médicaments.
Olivier Maguet de Médecins du Monde répondait à Mathieu Laurent. Au procès des attentats de janvier 2015, la Cour d'assises spéciale de Paris a commencé à se pencher sur la personnalité des accusés. Ils sont soupçonnés à des degrés divers de soutien logistique aux frères Kouachi et à Hamedi Koulibaly. 11 accusés sont présents, les autres sont en cavale ou présumés morts. Avec Florence Turm, tout de suite, le compte-rendu de cette deuxième journée d'audience.
La Cour est saisie de faits, mais avant tout, elle juge des personnes. Indique sobrement le président, il est important de connaître leur parcours de vie. Dans l'ordre alphabétique choisi, Abdelaziz Abad sera le premier. Il est soupçonné d'avoir cherché des armes pour les frères Kouachi et il clame son innocence avant même de parler de lui. Quatrième d'une famille de 9, gravement brûlé enfant, il passera 4 ans à l'hôpital. Après, j'ai voulu aller un peu trop vite, explique-t-il. J'ai commencé à avoir de mauvaises fréquentations. Le président l'interrompt. On n'entend rien dans la salle voisine. Les équipes techniques s'affairent, problèmes à répétition qui entravent la fluidité des débats, même si les accusés et les avocats ont été autorisés à s'exprimer sans masque. Abdelaziz Abad tient le sien dans sa main droite, expression correcte et polie jusqu'au moment où l'on évoque un autre dossier d'assassinat et le casier judiciaire de ses frères. Ce dossier a foutu ma vie en l'air, quand est-ce qu'on va en parler, s'agace l'accusé. Puis vient le tour de Michel Catineau, 68 ans, le plus âgé des 11, voix traînante, difficulté d'élocution après une violente agression il y a une douzaine d'années. Un très très bon papa vient témoigner son fils à la barre. Son seul défaut, c'était le jeu et les casinos. Michel Catineau, présenté comme l'homme à tout faire de Metin Karasular, un garagiste turc volubile qui a joué les intermédiaires pour la revente d'une voiture achetée frauduleusement par Hamedi Koulibaly et qui ponctue toutes ses indignations de « franchement ». Longue diatribe contre les prisons françaises, on paye 11 euros un kilo de sel, on ramasse des mégots par terre, 4 ans que je n'ai pas vu mes enfants. Franchement, la France, on dit que c'est le pays des droits de l'homme, mais c'est honteux. Pas comme en Belgique, précise celui qui présente un casier judiciaire assez fourni, mais qui, dans ce dossier, se déclare plus innocent que tout le monde.
Florence Turm, au Palais de justice de Paris. Un verdict surprise en Slovaquie. Le commanditaire présumé du meurtre du journaliste Jan Kuciak et de sa compagne est acquitté. En février 2018, ce double assassinat avait provoqué de vastes manifestations en Slovaquie et entraîné la démission de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre, accusé d'avoir laissé prospérer un système mafieux à la tête de l'État. Faute de preuves, donc, l'homme d'affaires sulfureux Marian Kočner est jugé non coupable, mais il reste en prison. Les précisions de notre correspondant en Europe centrale, Alexis Rosenzweig.
Marian Kočner, non coupable, ainsi que son intermédiaire présumé. Le verdict tombé jeudi matin a abasourdi celles et ceux présents dans la salle du tribunal spécial de Pezinok, d'où sont sorties les familles du jeune couple tué à bout portant, ainsi que son ancien rédacteur en chef avant la fin de l'énoncé du jugement. Jozef Kuciak, le père du journaliste, a déclaré être resté paralysé en entendant que les preuves manquaient pour pouvoir condamner le sulfureux Kočner, alors que l'enquête avait permis de mettre en évidence son réseau de type mafieux à tous les niveaux de l'État slovaque. La présidente slovaque, Zuzana Čaputová, s'est elle aussi déclarée choquée par ce verdict et espère que justice sera définitivement rendue par la Cour suprême, devant laquelle le parquet slovaque a immédiatement fait appel. Un complice du double meurtre a quand même été condamné aujourd'hui à 25 ans de prison. Le tueur à gages et un autre intermédiaire qui avait plaidé coupable sont déjà derrière les barreaux. Condamné dans une affaire financière, Marian Kočner reste lui aussi en prison. En fin de compte, même Al Capone est tombé pour fraude fiscale. C'est ce que fait remarquer Arpad Soltes, qui dirige le Centre pour le journalisme d'investigation, qu'il a baptisé du nom de Jan Kuciak, son ami et collègue, victime d'un crime qui risque de hanter la Slovaquie encore longtemps.
Aux États-Unis, un tribunal de Californie vient de juger que le programme de surveillance massive mis en place par la NSA était illégal, voire anticonstitutionnel. C'est ce programme qu'Edward Snowden avait mis au jour, ce qui lui avait valu d'être inculpé aux États-Unis. L'ancien analyste s'était ensuite enfui et avait trouvé refuge en Russie. Bonsoir Grégory Philips.
Bonsoir.
Correspondant de France Culture à Washington. Ce jugement, Grégory, c'est une victoire symbolique pour l'ancien contractuel de l'Agence nationale de sécurité américaine.
Oui, souvenez-vous, en 2013, Edward Snowden révèle dans le Guardian et dans le Washington Post cet énorme scandale. La NSA surveille et enregistre des millions d'appels téléphoniques domestiques aux États-Unis à des fins de renseignement. Au moment de la publication de ces révélations, Snowden a déjà quitté le pays. Il est à Hong Kong avant, un peu plus tard, vous l'avez dit, de s'installer dans la banlieue de Moscou. Chez lui aux États-Unis, Snowden est alors inculpé pour espionnage, vol et utilisation de documents gouvernementaux. Il risque jusqu'à 30 années de prison. Mais 7 ans plus tard, ce tribunal de San Francisco vient donc de lui donner en partie raison. L'opération de surveillance montée par la NSA, dit le juge californien, était illégale, anticonstitutionnelle. Snowden, depuis Moscou, et les associations américaines de défense des droits civiques se félicitent de ce jugement. Alors cette décision permettra-t-elle à l'ancien analyste, il a aujourd'hui 37 ans, de rentrer un jour chez lui aux États-Unis ? C'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais on a entendu au cours de l'été Donald Trump évoquer l'idée d'une grâce qu'il pourrait accorder à Edward Snowden. Trump qui pourtant, il y a 7 ans, réclamait la peine de mort contre Snowden est visiblement en train de changer d'avis.
Grégory Philips en direct de Washington. Des négociations entre la Serbie et le Kosovo s'engagent aujourd'hui à Washington sous l'égide des États-Unis, un dossier sur lequel l'Union européenne bute depuis une dizaine d'années. Alors, quelle est l'intention de Donald Trump ? Le président tenterait-il d'obtenir un succès diplomatique au nez et à la barbe des Européens pour servir ses intérêts électoraux à l'approche de la présidentielle ? Le décryptage de Bertrand Galichet.
20 ans après la fin de la guerre avec le Kosovo, la Serbie ne reconnaît pas l'indépendance de son ancienne province, autoproclamée en 2008 et qui divise la communauté internationale. L'administration Trump tente de prendre la main en réunissant à Washington le président serbe et le premier ministre kosovar. Cette rencontre affiche un objectif improbable, améliorer les perspectives économiques des deux camps pour faciliter ensuite un accord politique. Sébastien Gricourt, directeur de l'Observatoire des Balkans à la Fondation Jean Jaurès.
Cette idéologie de vouloir croire à tout prix que si vous acceptez nos dollars américains, vous allez arriver sur un accord économique et nous ferons la paix. Non, je n'y crois pas, mais c'est la seule clé de lecture qu'a cette administration. Et d'ailleurs, les analystes parlent déjà que ce lettre d'intention qui existe sur ces infrastructures autoroutières, ferroviaires, aériennes, que voudraient à tout prix ouvrir les Américains, en réalité ne profiterait qu'à des intérêts serbes.
Une négociation sous l'égide du représentant de Donald Trump, Richard Grenell, soupçonné par les Européens de vouloir offrir au président américain un succès diplomatique de façade. L'Union européenne poursuivra de son côté ses efforts de médiation lundi prochain à Bruxelles.
La Commission européenne présente un plan d'action sur les matières premières critiques. Objectif de l'Europe, rendre plus sûr et plus durable l'approvisionnement en matières premières essentielles pour les technologies et les secteurs stratégiques pour l'avenir. Il s'agit donc, Angélique Bouin, de réduire la dépendance à l'égard des pays tiers.
Oui, il faut bien que l'Europe soit à la hauteur de ses ambitions, ont expliqué les deux commissaires concernés en présentant ce plan. On veut par exemple être des champions dans le domaine des batteries pour les voitures électriques. Eh bien, il faudra du lithium, beaucoup de lithium. On en aura besoin de 18 fois plus qu'aujourd'hui d'ici 2030 et 60 fois plus d'ici 2050. Pour les éoliennes, les panneaux solaires, il faut aussi des composants comme le silicium. Et puis, pour devenir un champion du numérique, là aussi, il y a fort à faire hein, en Europe. La bataille mondiale entre les géants l'électronique est déjà rude pour trouver du cobalt. Pas question de remplacer la dépendance actuelle aux combustibles fossiles par une dépendance aux matières premières essentielles, dit-on à la Commission. L'Europe se met donc en ordre de bataille, a expliqué tout à l'heure le commissaire français au marché intérieur, Thierry Breton.
Nous ne sommes pas, et nous ne sommes plus, en tout cas, on le dit depuis maintenant un certain nombre de mois, une Europe naïve. Nous sommes parfaitement conscients des enjeux qui sont les nôtres, d'avoir des partenariats d'égal à égal avec les grandes puissances de ce monde, les grands continents de ce monde. Et c'est dans ce contexte qu'il faut lire ce que nous allons dire aujourd'hui.
Voilà, alors le plan présenté ce matin prévoit d'identifier les gisements existants en Europe et d'y flécher des investissements, y compris dans le cadre des plans de relance hein, post-Covid. La Commission veut également cartographier, grâce à son programme d'observation de la Terre Copernicus, les ressources mondiales et développer les accords avec des pays tiers comme le Canada, l'Australie ou des pays africains. Ces matières rares sont par ailleurs, et c'est une bonne nouvelle pour beaucoup, recyclables. Les 27 veulent donc également se doter de technologies nouvelles dans ce domaine.
Angélique Bouin, en direct de Bruxelles. Le Kremlin rejette toujours toute implication de l'État russe dans l'empoisonnement d'Alexeï Navalny. Après la confirmation par l'Allemagne de l'empoisonnement de l'opposant russe au Novichok, l'économie russe s'est réveillée ce matin sous le choc, sur fond des craintes de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou. C'est une avancée importante dans le processus de paix en Afghanistan. Le gouvernement afghan et les talibans sont parvenus à régler leur désaccord sur un échange de prisonniers qui est maintenant presque achevé. Pour s'asseoir à la table des négociations, les talibans exigeaient la libération de 5000 prisonniers, dont certains ont été impliqués dans des attaques meurtrières contre des Afghans et des étrangers. La France et l'Australie s'opposent à la libération des détenus impliqués dans la mort de leurs ressortissants. Ils ne sont pas libérés, affirment les autorités afghanes. Les explications de Sonia Ghezali. Kaboul.
Un petit groupe de 7 prisonniers n'a pas été relâché, confirment les talibans. Il s'agit de détenus impliqués dans la mort de ressortissants australiens et français. Les deux pays refusent qu'ils soient libérés. La France oppose, elle, fermement à la libération de 3 prisonniers. 2 sont impliqués dans la mort de l'humanitaire Bettina Gualar, tuée en novembre 2003 dans la province de Ghazni, dans le centre de l'Afghanistan. Les deux hommes avaient ouvert le feu sur la voiture qui l'a transportée. La jeune femme travaillait pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le troisième prisonnier dont la libération et rejeté par la France avait ouvert le feu sur des soldats français lors d'un entraînement sur une base militaire en Kapisa, une province voisine de Kaboul. La demande de la France avait profondément choqué de nombreux défenseurs afghans des droits de l'homme. Cette exigence des pays étrangers montre que, selon eux, la vie des Afghans vaut moins que celle des étrangers, a réagi la présidente de la Commission indépendante des droits de l'homme en Afghanistan. Shahrzad Akbar dit avoir été heurté par une telle requête alors qu'aucun pays étranger ni aucun membre du gouvernement afghan ne s'est préoccupé de savoir savoir si la libération de milliers de prisonniers talibans n'allait pas heurter les familles des victimes de leurs attentats et attaques ciblées. Selon certaines sources citées par l'AFP, l'agence France Presse, les 7 prisonniers qui ne sont pas relâchés seront envoyés au Qatar où ils y seront détenus le temps des discussions intra-afghanes. Leur sort reste à ce stade entouré de mystères. Les discussions intra-afghanes devaient commencer initialement en mars. La libération des prisonniers talibans était une exigence des insurgés avant toute discussion.
Sonia Ghazali, correspondante de RFI en Afghanistan. Demain vendredi, le temps sera généralement ensoleillé et chaud. Ciel plus changeant du nord des Pays de la Loire à l'Île-de-France et franchement nuageux en Bretagne. Il fera de 9 à 19 degrés demain matin, 20 à 25 l'après-midi au nord de la Seine, 27 à 31 ailleurs et jusqu'à 35 localement dans le sud-ouest. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.